Chapitre 13. Questions et réponses. M. Tyrol ne revint que le jour suivant de Belfond, où, conformément à ce qu'il avait appris de sa fille, la fin violente de Bellamy fut présentée comme entièrement accidentelle. Il avait appris quelques détails de son histoire. Bellamy était le fils puiné d'un homme qui tenait une académie de jeu. Durant sa première jeunesse, on avait totalement négligé son éducation, il avait été abandonné à lui-même. Mais son père, étant devenu très riche, lui fit donner toute l'instruction dont son âge était encore susceptible. Il le destinait à remplir un emploi lucratif. Le défaut d'application le fit congédier de tous les postes qu'il obtint. Il entra au service militaire, mais il n'avait pas plus de courage que d'application et il ne tarda pas à être chassé. Il suivit alors la profession de son père et gagna beaucoup d'argent. Cependant, comme les succès du jeu et les dépenses extravagantes marchent toujours de compagnie, il jetait d'une main ce qu'il gagnait de l'autre. Dans une veine de malheur, il voulut corriger la fortune. Il fut découvert et chassé ignominieusement. Son père ne vivait plus et son frère aîné ayant refusé de venir à son aide, il résolut de courir une nouvelle chance en profitant de l'avantage d'une très belle figure et d'enlever, s'il était possible, quelque jeune héritière opulente. Il jugea toutefois prudent non seulement de s'éloigner de Londres, mais de faire un petit changement dans son nom et de transformer Nicolas Gwig en Alphonse au bel ami. En conséquence, après avoir vendu sa maison et tout ce qu'il possédait, à l'exception de sa garde-robe, il commença sa tournée par le pays de Galles, où il s'insinua dans la société de Mistress Acton, peu de temps après qu'elle eût fait épouser Miss Melmont à M. Burlington. Et, quoique cette relation ne pût pas se terminer par un voyage à Gretna Green, la beauté de la jeune mariée, la tournure romanesque de son caractère et l'âge disproportionné de son mari, lui firent concevoir un projet infiniment plus criminel. Heureusement pour celle dont il méditait la ruine, elle ne tarda pas à quitter le pays de Galles et Bellamy, cherchant de nouvelles aventures, vint par hasard dans le comté d'Hampshire. Mais il entretenait toujours une correspondance avec Mistress Burlington. Et quand il eut réussi par ses artifices, ou plutôt par la violence, à enlacer dans ses filets une héritière, il craignit moins d'être reconnu et hasarda de paraître à Londres, où il reprit son odieux projet et ses vieilles habitudes. Mais des dettes d'honneur qu'il avait volontairement oubliées à son départ de la capitale furent sérieusement réclamées et il sentit l'impossibilité de se montrer sans satisfaire à ses demandes. Telle fut la source des persécutions qu'il exerçait contre sa malheureuse épouse et de l'accident qui la délivra de sa tyrannie. Camilla, dont la maladie ne provenait que des tourments de l'âme, du défaut de nourriture et de sommeil, se trouva, dès le lendemain, en état de descendre dans le cabinet de son père, où elle reçut ses caresses et ses bénédictions. M. Tyrold, la jugeant encore trop faible pour hasarder d'aucune espèce d'explication sur le passé, appela son épouse pour l'aider à communiquer à Eugénia ce qui venait d'être fait à Belfond, avec la circonspection que sa situation exigeait, et il enjoignit à Camilla de ne point prendre part à cet entretien. Les regards de Camilla parcouraient délicieusement une chambre où, dans les derniers temps, elle n'entrait qu'avec terreur et les yeux gonflés de larmes. Elle tira de sa poche le bracelet qu'elle regardait comme le restaurateur de sa liberté domestique. Elle le pressait contre son sein et, au moment où elle le portait à ses lèvres, Mistress Tyrol rentra dans son cabinet. Elle le renferma dans son étui avec un air de confusion très visible et se disposait à le remettre dans sa poche lorsque Mistress Tyrol, lui prenant la main et la pressa tendrement entre les siennes, lui dit « Ne saurais-je jamais, ma chère Camilla, l'histoire de ce bracelet ?» « Oh, pardonnez-moi, ma très chère mère !» répondit Camilla en rougissant. « Vous la saurez, ainsi que tout le reste. Vous n'avez qu'à... »« Si cette explication vous embarrasse, ma chère enfant, » lui dit Mistress Tyrold, « nous la remettrons à un autre jour. » Et Camilla, en levant les yeux, vit ceux de sa mère remplis de larmes. « Ma mère, ma très chère mère !» s'écria Camilla. « Qu'est-il arrivé ?» Comment ma sœur Eugénia a-t-elle supporté ?»« À tous égards et dans toutes les occasions, » reprit Mistress Tyrold, « Eugénia est telle que la plus tendre et la plus vaine des mères pourrait désirer qu'elle fût. Mais ce n'est pas d'elle que je suis occupée pour le moment. Je crains pour ma Camilla l'impression d'une demande qu'on se propose de lui faire incessamment. Dites-moi, ma Camilla, avec la franchise et la confiance que vous avez toujours eue pour votre mère, si vous croyez pouvoir, sans aucun risque pour votre santé ou votre tranquillité, revoir ici une personne qui a longtemps été admise comme faisant partie de notre famille. » Camilla, vivement émue, changea de couleur, leva les yeux et les baissa aussitôt. Mais, apercevant que Mistress Taylor, qui cachait son visage d'un mouchoir, était baignée de larmes, elle s'élança dans ses bras et, lui passant les siens autour du cou, « Oh, ma mère !» lui dit-elle, « vous à qui les chagrins les plus cuisants n'ont jamais arraché une larme, vous en versez pour moi. Je verrai et j'éviterai qui bon vous semblera. Jamais, pour vous obéir, le courage ne me manquera. Je ne craindrai rien, personne, ni moi-même. Rentrez sous votre protection, je désire que vous dictiez jusqu'à mes pensées. » Calmez-vous, ma chère enfant. Si vous croyez pouvoir vous conduire avec fermeté, je ne refuserai point la réadmission qu'il sollicite. » Qu'il sollicite ? Reprit Camilla avec sa vivacité ordinaire. Mais sa mère, n'ayant pas eu l'air de l'entendre, elle ajouta : La personne dont je crois que vous parlez n'a rien fait, ma très chère mère, pour mériter l'expulsion. Je la prends de vous avec plaisir, car j'avoue que sa conduite m'a blessée profondément. Ah, ma chère mère, combien je dois être sensible à une partialité qui vous a fait écouter en ma faveur votre tendresse, même aux dépens de votre justice. Effrayée de la témérité de ce qui venait de lui échapper, elle détourna ses regards et parla de sa sœur Eugénia. Mais Mistress Tyrold, lui prenant les deux mains et cherchant en vain à rencontrer ses yeux, lui dit « Ma chère Camilla, j'ai une infinité de doutes que je voudrais vous entendre résoudre clairement et sans réserve. Si Edgar… » Camilla changea une seconde fois de couleur et tâcha de dégager ses mains. « Prenez courage, ma chère Camilla, et tranquillisons-nous toutes deux par une explication définitive. Si Edgar n'a point démérité auprès de vous, pourquoi avez-vous renoncé l'un à l'autre? Et s'il a des torts, pourquoi cherchez-vous à lui conserver ma bonne opinion ?»« Il la mérite, ma très chère mère, » répondit Camilla d'une voix altérée, en penchant languissamment sa tête sur l'épaule de Madame Tyrold. « Il vous adore. Je ne dois pas être injuste pour lui. » Quoiqu'il m'ait rendue fort malheureuse. Volontairement, ma chère Camilla. Oh non, non, ma chère mère, il ne voudrait pas de mal, même à son pire ennemi. Expliquez-vous donc clairement, ma Camilla, si vous avez une si haute opinion de lui, si vous êtes si sûre de ses bonnes intentions, dites-moi en deux mots pourquoi vous vous êtes quittée. Des incidents, ma très chère mère, des apparences trompeuses, de faux raisonnements de ma part et de la sienne, de fausses interprétations. Oh, ma chère mère, j'avais perdu mon guide et par de malheureuses circonstances, par une sorte de fatalité inconcevable, j'avais toujours l'air de négliger ses conseils, de me conduire dans un sens directement opposé, de tromper ses espérances et de faire peu de cas de ses opinions. Cependant, mon cœur fidèle, reconnaissant et dévoué, oh, ma tendre mère, mon estime pour lui est au-dessus de toute comparaison. Mon respect approché de la vénération, et jamais un cœur ne sentit plus vivement la valeur d'un autre. Sa générosité, sa… » Un bourdonnement confus, qui partait de la chambre voisine, l'interrompit. Elle leva la tête qu'elle appuyait sur le sein de sa mère, comme pour y déposer les plus secrètes pensées de son cœur. La porte s'ouvrit et elle vit paraître celui dont elle parlait, agité, tremblant, mais avec des yeux qui exprimaient vivement sa joie et tous les sentiments de son cœur. Camilla, saisie de surprise et de honte, se crut un moment déshonorée. Le moment fut amer mais court. Edgar s'élançant vers Mistress Tyrold, saisissant et baisant ses mains, tandis qu'elle soutenait la défaillante Camilla, « Oh, ma mère !» lui dit-il, « Oh, ma respectable et inestimable amie, pardonnez-moi cette heureuse indiscrétion, plaidez ma cause où je n'ose entreprendre de la plaider moi-même et daignez jeter les yeux sur le plus heureux, le plus dévoué de votre famille. » « Pourquoi donc suis-je aujourd'hui si faible ?» dit Mistress Tyrold en penchant sa tête sur sa chère Camilla qu'elle arrosait de ses larmes. « Le malheur n'est pas, à ce que je vois, la véritable pierre de touche de la philosophie. J'ai été presque abattue deux fois aujourd'hui par le bonheur et la joie. » Quelle bonté, quel bonheur de pouvoir espérer votre indulgente intercession lorsque le souvenir des doutes honteux auxquels je ne puis penser sans horreur pour moi me remplit l'âme de remords et me fait sentir, même dans ce moment de félicité, que je suis indigne de l'espoir qu'il me présente. Voulez-vous que je le laisse faire sa paix avec vous ? Dit tout bas Misri Tyrold à sa fille qui tâchait de se cacher dans ses bras. Mais Camilla se servit du peu de force qu'elle avait pour se serrer contre sa mère et lui répondit vivement « Oh non, non, non !»« Ma respectable mère, j'attendrai patiemment, reprit Edgar, que cette félicité me soit accordée et je me mets sous votre généreuse et puissante protection. Il y a toutefois une circonstance que je ne dois point taire. Je suis personnellement trop coupable pour pouvoir me charger des fautes qui me sont étrangères. » Je suis entré ici volontairement, mais c'est innocemment que j'ai eu le bonheur d'entendre votre conversation. Voyez, Misri Tylord, celui qui m'a placé dans cette chambre, celui qui m'a rendu le plus heureux des hommes. Misri Tylord regarda en souriant et vit, appuyé sur la porte de cette chambre, l'objet de sa tendresse et de sa vénération, qui les contemplait tous avec un air de satisfaction si complète et des regards qui peignaient si bien le plaisir et le bonheur, que les larmes de joie ruisselèrent le long de ses joues. Monsieur Tyrold, s'approchant pour presser à la fois contre son sein les deux objets de sa tendresse, leur dit « Cette surprise n'a pas été préparée, mais l'occasion l'a rendue irrésistible. Camilla a bien cependant le droit d'en être mécontente, et si elle use de rigueur, nous subirons la peine de l'exil jusqu'à ce qu'elle nous pardonne et nous rappelle. » Tout ceci n'est-il pas un songe ? S'écria Camilla. Tout ce que j'entends, tout ce que je vois est si inintelligible, si impossible. C'est le passé et non le présent, reprit Edgar, qui doit être regardé comme un songe. Soyez assez généreuse pour ne plus y voir qu'un délire indigne de rester dans la mémoire. Si je pouvais, dit Camilla, concevoir ce que signifie tout ceci, ce que... Monsieur Tyrold invita Mandelbert à se retirer un moment, tandis qu'il satisferait la juste curiosité de Camilla. Il lui apprit qu'en revenant de Belfond, il s'était arrêté à la maison à mi-chemin et avait reçu des mains de Mistress Marle une lettre qui aurait hâté l'entrevue générale et en même temps déchiré son cœur si elle fût arrivée à Essrington où elle était adressée. Elle resta à l'auberge faute d'un messager. Et Peggy la trouva, en balayant la chambre, sous une table où elle était tombée, à ce qu'elle suppose, lorsqu'on posa la chandelle pour lire les prières. « Il y en avait encore une !» dit Camilla en rougissant de ce souvenir. « Mais ma situation et tout ce qui a suivi me les ont fait oublier jusqu'à ce moment toutes les deux. A-t-elle parlé de l'autre ?»« Oui, l'autre avait été remise à son adresse. »« Grand Dieu !» « Calmez-vous, ma chère Camilla, tout a tourné pour le mieux. Mon complice avait reçu dès le matin la sienne. Il passa par un favorable hasard à cette maison au moment où on venait de la trouver et Mistress Marle la lui remit. « Oh, comme cela est terrible ! Elle ne devait être remise que dans le cas où je n'aurais plus revu personne. » L'événement, ma chère enfant, a rempli très heureusement l'intention. Edgar vint immédiatement ici et me demanda. Je n'étais point revenu. Il voulut savoir quelle route j'avais prise, résolu de me joindre ou de me suivre. Il marchait depuis une heure lorsque nous nous rencontrâmes. Il donna son cheval à son domestique et entra dans ma chaise. Camilla souffrait visiblement de cette relation. Mais son père lui apprit en peu de mots qu'Edgar, après les plus humbles excuses et prenant sur lui tout le blâme, avait sollicité de nouveau son consentement pour épouser sa fille, dont les sentiments purs et généreux venaient de lui être révélés comme par miracle. Le sourire de la satisfaction, qui se mêlait involontairement à la rougeur et aux larmes de Camilla, prouva qu'elle tâchait en vain de combattre les regrets et la honte, la délicieuse certitude du bonheur que cet incident avait produit. Mais lorsqu'elle apprit encore que Lionel, ayant rencontré Edgar en Flandre, lui avait confessé franchement ses embarras et ses aventures, qui lui avait expliqué les circonstances qu'il avait décidé à quitter l'Angleterre si clairement et d'une manière si satisfaisante que Mandelbert s'était sur le champ déterminé à y revenir le plus promptement possible, Elle oublia tout autre sentiment que ceux du bonheur et du plaisir. « Vous n'êtes donc plus fâché, » lui dit en souriant son père, qui lisait dans ses yeux ce qui se passait dans son cœur. « Je n'ai pas mal fait de ne pas attendre que je vous eusse consulté pour lui rendre mon consentement, le serrer dans mes bras et l'appeler mon fils. » Pour toute réponse, elle se précipita dans les bras de M. Tyrold. « Je ne voulais pas, » continua-t-il, « l'amener avec moi. Je ne me flattais pas que ma Camilla fût si promptement rétablie, et j'avais à remplir une tâche triste pour ma pauvre Eugénia, dont je voulais m'occuper d'avance. Mais je lui promis que dans une heure, il serait reçu au moins par votre mère. » Il alla se promener en attendant. Lorsque je la vis, elle m'accompagna chez Eugénia, où je racontai mon aventure. « Et votre mère, ma chère Camilla, en perdit la tête de joie. Ses larmes coulèrent comme les vôtres. Elle est sûre, disait-elle, qu'Edgar Mandelbert est seul capable de préserver sa fille des dangers et de la rendre heureuse. S'est-elle trompée, ma chère Camilla? Dirons-nous qu'elle a perdu le jugement comme la fermeté dans cette occasion? » Ce fut au pied de sa mère qu'elle exprima sa reconnaissance. Les mots lui parurent insuffisants. Elle eut recours aux plus tendres caresses. Et lorsque M. Tyrold la quitta pour aller conférer avec Edgar, l'ingénuité de son caractère lui arracha. « Puisque tout est passé, mon cher père et ma tendre mère, ne devrais-je pas moi-même ?» Elle n'en dit pas davantage, mais on l'a compris, et M. Tyrold introduisit aussitôt Edgar. « Mon cher complice, je suis acquitté. Tâchez d'en faire autant, employez-y toute votre éloquence. » Il sortit et Mrs. Tylord se levait pour sortir aussi. Mais Camilla la retint par des regards de supplication dont la sincérité ne lui était point suspecte. « Ah oui, madame, restez !» s'écria Edgar en lui prenant respectueusement la main. « Vous m'aiderez à obtenir le pardon d'une défiance à laquelle je renonce pour la vie et que je n'aurais jamais connue si j'avais osé espérer le bonheur dont je jouis si délicieusement aujourd'hui. » Mais si vous me refusiez votre médiation, notre chère convalescente serait peut-être tentée de m'imposer le délai de quelque longue épreuve dont l'idée m'effraie. Daignez être ma caution et promettez que si on m'accorde un pardon généreux... « Un pardon ? » dit Camilla en l'interrompant. « Ai-je quelque chose à pardonner ? J'ai cru n'avoir pour ma part que des explications et des excuses à faire. J'ai cru que mes inconséquences, mon étourderie, mes fréquentes erreurs... et quelquefois même l'apparence d'une conduite irrégulière. « Oh, ma Camilla, ma chère Camilla !» s'écria Edgar en quittant la main de la mère pour prendre celle de la fille. « Vous portez trop loin l'indulgence. Permettez-moi d'espérer que vous consentirez à une amnistie complète et à l'oubli du passé. » « Ne serait-ce pas, » dit Camilla en souriant, « mon intérêt plus que le vôtre ?»« Je crois, ma chère mère, qu'il oublie sa cause pour plaider la mienne. » Et dois-je en bonne foi profiter de cette erreur ? Le retour de sa gaieté répandit une joie douce dans le cœur de sa mère. « Madame, lui dit Edgar, vous voyez que la paix est faite et qu'il ne s'agit plus que de la ratifier. Votre pénétration n'a pas besoin, pour me juger, des protestations que je pourrais vous faire. Daignez sceller par votre consentement celui de mon vénérable tuteur. Vous me donnerez l'exemple d'une confiance qui sera la leçon de toute ma vie. » « Oui, » lui répondit Mrs. Tyrold, et prenant à l'instant même leurs mains qu'elle joignit ensemble, « C'est, dit-elle, avec la ferme persuasion que le bonheur de toute notre vie, celui de ma fille, de mon mari, le vôtre et le mien, mon cher Edgar, trouveront leur source dans la vertueuse et sainte union de mes deux enfants chéris. » Lorsque M. Tyrold rentra et qu'il eut joint ses bénédictions à celles de sa digne épouse, ils laissèrent Edgar seul avec Camilla. Les doutes du premier, les longues perplexités de l'autre, furent éclaircies et dissipées par un aveu mutuel et une confiance sans réserve où rien ne fut oublié, pas même les pensées.